La revue de presse internationale. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Revue de presse internationale qui nous emmène tout d'abord ce matin à Bogota, la capitale colombienne.
Et la Colombie qui renoue avec la menace du terrorisme intérieur. 3 jours de deuil national viennent d'être décrétés après l'attaque à la voiture piégée qui a frappé ce jeudi matin une caserne des cadets de la police dans un quartier sud de Bogota.
Hacia las 9:30 de la mañana, la policía reportó una fuerte explosión en el interior de la Escuela de Cadetes Francisco de Paula Santander, ubicada en el barrio Villamayor, en el sur de Bogotá.
Dans ce récit des faits par la chaîne Caracol TV, on apprend que l'explosion a eu lieu alors qu'une cérémonie de remise de médailles venait de se terminer. Le bilan humain fait état pour le moment de 21 morts, plus de 60 blessés, pour la plupart des enfants. Bogota n'avait pas connu un attentat aussi meurtrier depuis 15 ans, souligne le journal El Tiempo, qui nous en dit plus sur l'auteur de cette attaque suicide. Il s'agit d'un homme de 56 ans, habitant de la région d'Arauca, au nord du pays, là où ont sévi pendant des décennies les combattants des FARC et là où l'armée de libération nationale, l'ELN, reste active. Mais les FARC, nous rappelle El Tiempo, ont déposé les armes en 2016. Ils se sont transformés en parti politique et ont très rapidement, hier, condamné l'attentat. C'est donc vers l'ELN, toujours en action, que se concentre l'enquête pour chercher les commanditaires de l'attaque. L'hebdomadaire La Semana croit savoir que le kamikaze de Bogota serait en fait celui que les services de renseignement colombiens ont identifié sous le nom de guerre de Mocho Kiko, connu pour être l'artificier en chef de l'ELN. Ce qui est sûr, c'est que sur son versant politique, cet attentat fait figure de test pour le président de droite dure, Iván Duque. Il s'est fait élire l'an dernier sur la promesse de combattre les résidus de guérilla marxiste, de remettre en cause l'accord de paix historique avec les FARC. Dans les heures qui ont suivi l'attentat, nous dit El Nuevo Siglo, Duque a appelé tous les Colombiens à la solidarité. Il a revêtu le costume martial qui sied aux circonstances. Nous ne céderons rien à la terreur. C'est dans l'adversité que nous renforcerons, a déclaré le président, et ça a renforcé au passage les inquiétudes de l'opposition de gauche qui craint un tour de vice militariste. Dans son éditorial, enfin, El Tiempo appelle tous ses lecteurs à l'union, mais à lire ce texte, on comprend surtout que ce qui frappe les Colombiens, au-delà de la brutalité meurtrière de ce qui s'est passé hier, c'est bien la rapidité avec laquelle ont ressurgi les traumatismes gravés dans l'inconscient collectif par les décennies terroristes d'un passé pas si lointain.
Et la Suède, Camille, devrait se doter dans la journée d'un nouveau gouvernement après 4 mois de blocage politique.
Alors là, on en était resté à ces élections de début septembre qui avaient vu la montée de l'extrême droite suédoise et qui avaient grignoté le poids des partis traditionnels au point de rendre quasi impossible la constitution d'une majorité de gouvernement. Il aura donc fallu un peu plus de 4 mois et 2 tentatives avortées, nous apprend la chaîne suédoise SVT, pour qu'un premier ministre puisse finalement obtenir la validation du Parlement. C'est ce qui devrait se passer tout à l'heure, en tout cas pour Stefan Löfven. Et oui, 4 mois plus tard, confirme le Financial Times, on remet finalement le même leader des sociaux-démocrates suédois au pouvoir. Mais pour se maintenir et pour éviter de laisser l'extrême droite entrer au gouvernement, Stefan Löfven a dû bousculer l'échiquier politique suédois, renier l'alliance historique avec sa gauche pour tendre la main à ceux qui constituaient hier encore son opposition à droite, les centristes et les libéraux. C'est cela qui fait dire à l'Aftonbladet que la Suède est en train d'entrer dans une nouvelle ère politique avec un défi de taille pour Stefan Löfven. Comment préserver la démocratie sociale, le fameux modèle suédois, malgré ce virage opportuniste à droite? Pour veiller au grain, il faudra compter sur le parti de gauche, exclu du nouveau gouvernement, mais qui affirme avoir conclu un accord secret avec Löfven pour que les fondamentaux du système social ne soient pas remis en cause. En échange, la gauche suédoise s'est engagée à s'abstenir lors du vote tout à l'heure au Parlement pour permettre au nouveau gouvernement, donc, à défaut d'avoir une vraie majorité, eh bien de ne pas être mise en minorité. Et c'est justement ça qui inquiète les Américains de Bloomberg, pour qui la Suède confirme une tendance franchement inquiétante en Europe. De plus en plus de gouvernements arrivent au pouvoir grâce à des coalitions qui ne sont majoritaires mathématiquement, mais qui ne le sont pas politiquement. Des alliances de circonstances dont la seule raison d'être, bien souvent, est de faire barrage à la montée du national-populisme. Des alliances, toutefois, qui n'ont pas de vraie ossature idéologique. Le programme du nouveau gouvernement suédois, par exemple, tient contient en 16 pages de vagues compromis entre des socialistes, environnementalistes et de centre-droit. La seule cohérence donc serait de mettre tout le monde d'accord, analyse Bloomberg, qui semble regretter l'avènement de cette politique à l'eau tiède, laquelle frustre au final tous les électeurs et qui a clairement montré ses limites dans l'Allemagne d'Angela Merkel, pour ne citer qu'elle.
Et puis vous terminez, Camille, par l'info qui fait peur. D'ailleurs, je me lève un peu pour voir dans le gobelet de Cécile Duflo si elle va avoir peur. Oui, vous avez du café. Et non, c'est justement un problème de café. Ah, c'est, il a une drôle de couleur, votre thé.
C'est le thé de France Culture. Hein.
Camille Magnard sur le café, pas seulement le café de France Culture.
En tout cas, si vous êtes, si vous avez vos tasses de thé à la main, écoutez cela, ça pourrait vous faire avaler de travers. C'est à lire sur les sites de CNN et de Time Magazine, 60% des espèces de caféiers à travers la planète qui sont menacées d'extinction. C'est ce que nous disent les spécialistes anglais des jardins botaniques royaux. Même l'Arabica, qui est la superstar des cafés, est désormais classée parmi les espèces menacées. Et vous n'allez pas être très surpris, c'est dû aux effets prévus du réchauffement climatique. Alors forcément, nous dit la revue Science Advances, le commerce mondial du café devrait en être affecté, d'autant que les mesures prises jusque-là pour protéger les espèces ont été largement insuffisantes, inefficaces, car, et là c'est Time qui nous l'apprend, on ne peut pas vraiment sauver les graines de café comme on le fait avec d'autres graines en les stockant dans des coffres-forts de la biodiversité. Les grains de café se conservent mal, pour éviter leur disparition, il faut donc les préserver dans leur environnement naturel, sauvage, en préservant cet environnement donc avant tout. Ça veut dire lutter contre la déforestation, en même temps que contre le réchauffement climatique. Vous comprenez mieux pourquoi je vous disais de savourer votre tasse de café ce matin. Il pourrait bien voir son prix flamber ces prochaines décennies.
Merci Camille Magnard pour cette revue de presse internationale que l'on retrouve sur le site de France Culture, franceculture.fr.